Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin, que le printemps qui arrive, le beau temps, c'est plaisant. Pour commencer ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans vos Bibles, si vous les avez avec vous, dans Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens au chapitre 1. Et on va lire ensemble les versets 1 à 14. Dans Éphésiens, chapitre 1, Paul est en train d'énumérer toutes les bénédictions spirituelles qu'on a reçues en Jésus-Christ, tous les bienfaits dont Dieu nous fait part à travers le salut qu'il nous a offert en Jésus-Christ. Et on voit à travers ce passage-là, si je peux dire, l'œuvre, je vais vous le faire remarquer, là, mais l'œuvre de la Trinité dans le salut. Et ce qu'on va voir, c'est parce qu'on commence ce matin la doctrine du salut et voir ensemble, entre autres, la doctrine de l'élection et de la réprobation. Et on va voir à travers ces passages-là comment Dieu a préparé le salut et comment il l'a accompli, non seulement en Jésus-Christ, mais le Père, comment le Père a agi, comment le Fils a agi, comment le Saint-Esprit a agi dans toute cette œuvre de salut-là. Alors, on va lire ensemble Éphésiens chapitre 1. Je vais commencer à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochable devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Je vais dire un mot de prière et puis après ça, on va plonger dans notre leçon ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour toutes ces bénédictions spirituelles que tu énumères dans ce passage à travers la plume de l'apôtre Paul, Seigneur. Tu as inspiré ces Écritures et c'est toi qui étais derrière lui pour apporter ces paroles à nos cœurs ce matin. Et Seigneur, on voit combien tu nous as bénis en Jésus-Christ. Toi, Dieu le Père, tu nous as élus avant la fondation du monde pour qu'on soit saints et irréprochables devant toi. Tu nous as prédestinés dans ton amour à être tes enfants. En Jésus-Christ, Seigneur, tu as permis qu'on puisse avoir la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Et ça, c'est selon toute la richesse de ta grâce, Seigneur Dieu. Et par ta grâce aussi, tu nous as donné ton esprit qui nous a scellés, qui nous a garantis de notre salut et qui est un gage pour nous de l'héritage que tu nous réserves dans les cieux. Combien ce passage mérite d'être médité davantage, Seigneur, de jour en jour et de méditer sur les bénédictions que tu nous accordes en Jésus-Christ. Merci pour ce salut merveilleux que tu nous accordes et merci pour ta parole qui nous rappelle combien tu es bon pour nous. On te prie, Seigneur, ce matin que tu puisses parler à nos cœurs à travers ce que nous allons étudier ensemble. Seigneur, on veut t'entendre, toi. C'est toi qu'on veut entendre à travers cette leçon, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous montrer combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es un Dieu d'amour et de grâce, et qu'à travers tout ce qu'on étudie ensemble, Seigneur, ça puisse servir à notre édification, à l'édification de ton Église, afin que ton Église puisse marcher en sainteté devant toi, et aussi pour te célébrer et t'adorer comme toi seul es digne d'être célébré et adoré. Bénis notre temps ensemble, Seigneur, et c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Oui, c'est. On est rendu maintenant à la doctrine du salut. Puis juste pour faire un petit survol, j'aime refaire un petit survol de où on est rendu en regardant qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais aussi, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose ce matin. C'est que lorsqu'on étudie la théologie systématique ou les doctrines essentielles, qui est l'organisation sous des grands thèmes de ce qu'on voit dans les Écritures, les grands thèmes, les grandes questions que l'être humain se pose par rapport à Dieu, par rapport à la création, par rapport à tout ce que Dieu accomplit, sa relation avec la création, on réalise qu'il y a un ordre, et cet ordre-là, on peut facilement le retenir avec en regardant un peu comment l'Évangile, comment Dieu a manifesté son Évangile, comment Dieu a manifesté sa bonne nouvelle à travers l'histoire du salut, et comment on peut arriver à comprendre l'Évangile, mais d'une manière globale, sous des grands thèmes. Et on a commencé premièrement avec la doctrine de la révélation. Et lorsqu'on cherche à connaître Dieu, si on veut connaître Dieu, si on veut même se connaître nous-mêmes comme Dieu nous voit, ça commence à quelque part à l'endroit où Dieu a décidé de se révéler à nous. On peut avoir instinctivement dans nos cœurs une pensée de l'éternité, la loi de Dieu inscrite dans nos cœurs, mais on avait besoin que Dieu se révèle à nous. Et on a commencé avec la doctrine de la révélation, les Écritures. Et ce que les Écritures nous enseignent, nous parlent de Dieu. Que Dieu était là au commencement, que Dieu était là déjà même dans l'éternité. Et qu'au commencement, Dieu était déjà là. Avant même que l'univers soit créé, Dieu était présent. Ça commence avec le début, dans un sens, de cette histoire merveilleuse que Dieu nous raconte à travers les Écritures. Et lorsqu'on regarde à Dieu, on cherche à comprendre sa personne. Ensuite de ça, on cherche à comprendre ses œuvres. On voit autour de nous les œuvres, la création de Dieu, et nous faisons partie, nous, de cette création-là. Et donc, on constate l'œuvre de Dieu dans la création, mais aussi en nous créant, nous. Et là, ça nous ramène à nous-mêmes. On a commencé avec Dieu, puis là, on se ramène à nous-mêmes, puis on apprend à connaître qui est l'homme et son origine dans les Écritures, que Dieu est son créateur, et qu'un jour, le péché est entré dans le monde, à travers le péché d'Adam et Ève, leur désobéissance dans le Jardin d'Éden. Et puis, c'est venu tout bouleverser la création que Dieu avait mise en place. Et à cause de ça, et on a vu aussi qu'à travers tout ça, à travers la doctrine du péché, on a vu aussi que Dieu avait créé des anges, il y a eu la chute des anges, Satan, etc. Et à cause du péché, maintenant, on a besoin d'un sauveur qui est en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, Dieu est venu accomplir ce qu'on avait besoin en vue de notre salut. Et ensuite de ça, Jésus a accompli son œuvre sur la terre, il est remonté au ciel et il nous a envoyé son Saint-Esprit. On a vu la doctrine du Saint-Esprit la semaine dernière. Il nous a donné son esprit pour qu'on puisse apprendre à le connaître, être illuminé dans notre intelligence pour comprendre les Écritures. Venez saisir l'Évangile, la grâce que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. Et maintenant, on arrive à la doctrine du salut. La doctrine du salut, on a déjà parlé parce qu'on a parlé de Jésus. Là, lorsqu'on parle de Jésus, on parle de la doctrine du salut qui a été accomplie en Jésus-Christ. Là, on arrive à la doctrine du salut, on pense plutôt à la doctrine appliquée à nous-mêmes, appliquée à l'homme, à ceux qui ont été élus. Donc, Dieu a accompli tout ça, accompli en Jésus-Christ ce qu'on avait besoin pour être délivré. Maintenant, comment il l'applique? Et ça, c'est la question. Comment il l'applique à nos vies? Comment on arrive à saisir l'œuvre de Christ? Et se l'approprier. Et quel effet cette œuvre-là a sur nous, sur notre état devant Dieu? Et on est rendu là. Par la suite, on va voir, après toute la doctrine du salut, on va prendre 4 semaines pour parler du salut parce que c'est quelque chose de merveilleux. C'est central dans les Écritures, le Dieu qui nous délivre. Mais après ça, on va voir la doctrine de l'Église. Une fois qu'on est sauvé, Dieu nous greffe à son corps qui est l'Église. Et ensuite de ça, on tombe dans qu'est-ce qui va arriver avec l'Église dans la fin des temps. Et là, vous voyez, à travers tout le survol de doctrine, qu'est-ce qu'on a fait? On a survolé, en fait, l'histoire de Dieu, l'histoire que Dieu nous raconte à travers sa révélation de lui-même, qu'est-ce qu'il nous dit sur nous, qu'est-ce qu'il a accompli pour nous en Jésus-Christ et comment tout ce salut-là s'applique à nos vies, à l'Église et dans les derniers temps. Donc, on arrive maintenant à la doctrine de l'élection et de la réprobation, qui est la première, en quelque sorte, une première étape dans l'application du salut. Pourquoi on peut dire qu'on est sauvé? Pourquoi on dit qu'on est sauvé? Ça commence où, ça, le fait qu'on est sauvé? Ça commence où? Évidemment, ça a commencé parce que Dieu a accompli quelque chose en Jésus-Christ. Mais dans son application, où ça commence? Et on va voir ensemble ce matin que ça commence dans le dessein éternel de Dieu, de choisir pour lui des gens qui allaient être sauvés, des gens qui allaient être son peuple, qui allaient servir à sa gloire. Et juste avant de pouvoir plonger un peu plus dans cette doctrine-là de l'élection, j'aimerais introduire quelque chose dont on parle souvent en théologie. On parle de l'ordre du salut. En réalité, qu'est-ce que c'est l'ordre du salut? C'est l'ordre dans lequel les bénéfices du salut sont appliqués à nous. Donc, il y a une définition, je vous offre une définition dans les notes. La définition de l'ordre du salut, on parle souvent en latin, là, dans la littérature théologique, de « ordo salutis ». Et c'est l'ordre dans lequel les différents bénéfices du salut sont appliqués aux élus. Ça inclut la justification, la sanctification, la glorification, mais aussi plusieurs autres bénéfices. Et je vous offre ici une liste des bénéfices et dans l'ordre du salut. Premièrement, ça commence avec l'élection, le choix de Dieu des gens qui seront sauvés. Donc, ça part, on va voir ensemble, ça commence dans l'éternité. Dieu a élu des gens pour être sauvés en Jésus-Christ. Deuxièmement, ça passe par l'appel de l'Évangile, c'est-à-dire la proclamation de l'Évangile. Dieu a choisi des gens, mais comment est-ce qu'ils vont venir à accepter l'œuvre de Christ pour eux? Ça prend la prédication de l'Évangile, ça prend la proclamation du message de l'Évangile. À travers la proclamation du message de l'Évangile, Dieu provoque dans les cœurs, le Saint-Esprit va provoquer une transformation du cœur, une régénération, il va provoquer la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance-là conduit à la repentance et la foi, à une conversion. C'est ce qu'on entend par conversion. Conversion souvent est associée par le fait de changer de vie. Comment ça se démontre une conversion? Ça se démontre par la repentance et la foi. C'est deux éléments qui vont ensemble. Lorsque quelqu'un se repent de ses péchés, place sa foi en Jésus-Christ, reçoit sa justification, il est justifié devant Dieu. Il reçoit la justice de Christ et son état légal devant Dieu change. Au lieu d'être coupable, maintenant il est juste. J'ai raconté ça justement cette semaine avec mes enfants. On prenait un temps dans la parole avec le culte en famille. On essaie de faire ça le plus régulièrement possible, mais cette semaine, on l'a fait une fois à travers un catéchisme, des questions là, qui sont posées aux enfants, puis on lit les Écritures, puis on essaye de comprendre. Quand je parle de catéchisme, faites bien attention, je prends pas le catéchisme de l'Église catholique. Là. Je prends un catéchisme réformé qui est en lien avec nos croyances. Ça existe, ça aussi. Donc, on regardait ça ensemble et je leur expliquais qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Et en fait, ce que Jésus a fait pour nous, c'est qu'on était coupable devant Dieu. Puis, il nous a rendus non coupables. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? C'est que lui qui était non coupable est devenu coupable pour des coupables, pour qu'ils deviennent non coupables. C'est un peu difficile à suivre mon affaire, mais Jésus était non coupable. Puis, il a pris notre place, il a pris sur lui notre culpabilité. Puis il a accompli la justice que notre culpabilité méritait à la croix. Puis le fait qu'il ait pris notre culpabilité fait maintenant qu'on peut être non coupable devant Dieu. On est rendu juste devant Dieu. C'est ça la justification. On reçoit la justice que Christ a accomplie pour nous. Ensuite de ça, on reçoit la justification. Et ça se passe pas mal tout en même temps, si je peux dire. Là. La repentance et la foi, la justification. Et maintenant, lorsqu'on vit cette justification-là, on est greffé à la famille de Dieu. Dieu nous adopte dans sa famille. On l'a lu ce matin. On est devenus ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. On n'est plus des enfants errants, puis des brebis errantes. On est adoptés dans la famille de Dieu. Ensuite de ça, dans notre marche. On commence une nouvelle marche, une nouvelle identité. On est enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on ne vit plus comme avant, mais on va grandir dans ce qu'on appelle la sanctification, qui est grandir dans une vie qui plaît à Dieu, à l'image de Jésus-Christ. Et cette image-là qui est renouvelée en nous, c'est la sanctification qu'on parle de progressive. Progressivement, on grandit à l'image de Christ. Et Dieu nous accorde aussi, par sa grâce, de persévérer, de marcher avec lui jusqu'à la fin. Une fois qu'on est sauvé, Dieu nous accorde de persévérer dans notre marche avec lui pour que, jusqu'à notre mort, le moment où on va aller dans la présence du Seigneur, on va rester fidèle. Et c'est lui qui nous garde fidèle à lui. Et finalement, la dernière étape de l'ordre du salut, de tout comment le salut est appliqué, c'est que lorsqu'on va être dans sa présence à la fin des temps, le Seigneur va renouveler nos corps, il va nous donner des corps incorruptibles. Et c'est ce qu'on appelle la glorification. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce qui se passe dans la doctrine du salut. Il y a beaucoup, Dieu accomplit des choses merveilleuses. Et tous ces éléments-là, c'est les bénéfices qu'on reçoit en Jésus-Christ. Puis on a vu certains de ces bénéfices-là dans Éphésiens 1, Paul en énumère plusieurs. Mais ce matin, on se penche un peu plus sur la première étape. La première étape de toute cette application du salut dans nos vies, et c'est l'élection. Et souvent, cette doctrine-là, comme je l'ai mentionné un peu dans le courriel cette semaine que je vous ai envoyé avec les notes, c'est une doctrine que... Je pourrais dire probablement une des plus difficiles, sinon la plus difficile à comprendre. Puis je ne suis pas ici, je vous le dis, je vous avertis ce matin, je ne suis pas ici pour vous éclairer sur toutes les questions que vous pouvez avoir avec l'élection. Oh, loin de là, parce que j'en ai encore pas mal que je vais demander au Seigneur rendu en haut. Seigneur, aide-moi à comprendre ça. Mais ce que je veux faire ce matin, en parlant de l'élection, c'est qu'on puisse regarder ensemble dans les Écritures. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Même si des fois ça fait... C'est bizarre, puis dans notre tête, on n'arrive pas à le saisir. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut accepter ce que Dieu nous dit. Et prendre les Écritures, dire, « Seigneur, aide-moi à comprendre ta pensée. » Même si des fois, pour moi, j'ai de la difficulté à suivre la logique de tout ça, je veux croire ce que toi, tu me dis. Et ce matin, comme je disais, je ne veux pas répondre à toutes les questions, puis je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les questions, puis vous offrir toutes les réponses que vous allez être satisfaits. Mais je veux vous offrir ce que Dieu nous donne comme indice dans sa parole, puis essayer de le saisir ensemble pour qu'on puisse glorifier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Fait que je vais commencer avec la doctrine de l'élection, puis je vais vous commencer avec une définition que le professeur Wayne Grudem donne. Il définit l'élection comme une œuvre de Dieu accomplie avant la création par laquelle il a choisi certaines personnes pour être sauvées. Non en raison de quelques mérites qu'il aurait connus d'avance en elles, dans ces personnes-là, mais seulement en raison de sa souveraineté et de son bon plaisir. Donc, qu'est-ce que Wayne Grudem est en train de dire? Il dit, Dieu, l'élection, c'est l'œuvre de Dieu dans l'éternité passée, avant la création, de choisir certaines personnes pour être sauvées. Et ça, ça ne dépend pas de leur mérite. Ce n'est pas à cause que ces personnes... ou des mérites qu'il aurait vus d'avance dans ces personnes-là. Ce n'est pas à cause qu'il a vu d'avance, « Ah, Alexandre, là, à un certain moment donné, là, il va croire en Jésus, puis à cause qu'il va croire en Jésus, je vais l'élire. » Non, ce n'est pas ça. C'est selon son bon plaisir et selon sa souveraineté, sa volonté. Dieu a décidé. Un jour, il y a un jeune homme, il y a un garçon qui va naître, il va s'appeler Alexandre Marquis, puis lui, je l'ai choisi. Lui, je le choisis, puis il va croire, puis il va être sauvé. C'est ce que Wayne Grudem nous dit. Maintenant, est-ce que c'est ça que les Écritures nous disent? Est-ce que c'est seulement sur la base de sa volonté ou est-ce que c'est sur des mérites que Dieu aurait vus d'avance? Et on va regarder ça ensemble. Je l'introduis un peu, cette doctrine-là, avec deux positions principales que je vous ai un petit peu expliquées. Il y a eu dans l'histoire de l'Église deux positions principales. Il y en a plusieurs, mais je vous présente les plus dominantes qui demeure encore aujourd'hui, puis je dirais même dans nos églises, même si on est très réformé dans notre doctrine, parfois il y a de cette doctrine-là, dans la doctrine de l'élection, des gens qui croient différemment dans nos églises. Notre confession de foi d'église permet de tenir ces deux positions-là. Il y a pas de, on n'a pas une position, je vais parler de la position calviniste et de la position arminienne. Notre confession de foi d'Église apprend pas un côté calviniste ou plus calviniste ou plus arménien dans l'élection. La confession nous offre la possibilité de se tenir un peu dans les deux camps. Mais il y a eu ces deux positions-là. Lorsqu'on parle de la position calviniste, évidemment, c'est issu de la théologie de Jean Calvin, qui était au temps de la Réforme, au 16e siècle. Et puis, il y a eu aussi la doctrine qui a suivi, un peu dans les décennies qui ont suivi Jean Calvin, la doctrine d'un nommé Jacob Arminius, et on appelle cette doctrine-là la doctrine arminianiste. Donc, l'arminianisme, je vais vous expliquer les deux positions. Premièrement, la position calviniste affirme que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde certaines personnes à être sauvées et recevoir la vie éternelle. Et non sur la base de quelques mérites que Dieu aurait vus d'avance. Cette élection-là, on appelle ça l'élection inconditionnelle, sans condition. Dieu a choisi, pas sur la base de quoi que ce soit, mais selon son bon plaisir à lui, a choisi des gens qui allaient être sauvés. Ça, c'est la position calviniste. Et Wayne Grudem, la définition que je vous ai donnée juste un peu auparavant, c'est une position calviniste. C'est une définition calviniste de l'élection. La position arménienne, elle va affirmer aussi que Dieu a prédestiné, avant la fondation du monde, certaines personnes à être sauvées et recevoir la vie éternelle par le salut qui a été accompli en Jésus-Christ. Mais cette élection-là n'est pas inconditionnelle. Elle est conditionnelle. C'est-à-dire qu'elle est fondée sur la préscience de Dieu, le fait que Dieu savait d'avance que certains allaient choisir de croire en Jésus-Christ et sur cette base-là a décidé de les élire. Donc, qu'est-ce qui vient en premier? Dans la doctrine calviniste, c'est la volonté de Dieu qui vient en premier. Et puis, sa préscience n'a pas vraiment n'est pas après, n'est pas avant. Elle fonctionne avec sa volonté. Alors que dans la doctrine arminienne, la préscience de Dieu a préséance sur sa volonté. Et c'est comme si Dieu, il dit, bon, là, je crée tout ce monde-là et connaît toutes les possibilités, il sait dirait exactement comment ça va s'enligner. Et sur la base de tout ce qu'il connaît comment ça va s'enligner, il sait qui va croire. Et sur cette base-là, décide de les choisir pour être sauvés. Vous voyez la différence? Un côté calviniste va dire c'est sur la base seulement de la volonté de Dieu, alors que le côté arminien va dire non, c'est pas seulement la volonté de Dieu, c'est sur la base de sa préscience. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça donne dans la pratique comme différence? Ça donne comme différence que ça donne un peu plus de responsabilité à l'homme de croire sur la base, d'être élu sur la base de la préscience de Dieu. Si j'entends l'Évangile et puis je crois, c'est parce que finalement je vais savoir que j'étais élu parce que j'ai cru. Alors que, Dieu va savoir que Dieu m'a choisi parce que j'ai cru. Et donc, si Dieu m'a élu sur la préscience, il savait le choix que j'allais faire et donc j'avais plus une liberté. Alors que si Dieu m'a élu, simplement selon sa volonté, où est mon choix là-dedans? Si Dieu m'a choisi, puis finalement, il m'a choisi, puis il a décidé qu'il allait tout mettre en place pour me sauver, puis que finalement, j'ai été sauvé, il était où mon libre arbitre dans tout ça? Il était où le choix que j'avais à faire? Et là, je pousse un petit peu plus loin. Et si, c'est sur la base de la volonté de Dieu, si quelqu'un ne croit pas, pourquoi Dieu le juge? Pourquoi Dieu le condamne? Dieu ne l'avait pas choisi. Pas de sa faute à lui. Comprenez l'idée? Fait qu'on a tendance, je vais le dire comme ça, humainement parlant, on a tendance à dire, non, c'est plus basé sur la préscience de Dieu, sinon ça enlève le libre arbitre à l'homme. Alors que si on dit c'est seulement sur la volonté de Dieu, bien là, pourquoi Dieu condamne? Et là, on va aller un peu plus loin, on va aller voir ce que les Écritures disent. Mais c'est juste pour vous placer devant vous un peu les différences. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'espère que je rends ça facile à suivre, parce que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué un peu. Mais en même temps, je veux voir les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Et on a lu ensemble Éphésiens 1, les versets 1 à 11 tout à l'heure. Et dans le verset 4 et 5, je vais attirer votre attention sur les versets 4 et 5. qu'est-ce qui nous est dit? En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, ce que ce verset-là nous dit, Dieu a choisi ceux qui allaient devenir ses enfants. Dieu nous a élus, parle à des chrétiens, Paul parle à des chrétiens, avant la fondation du monde, pour qu'on soit saints et irréprochables, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Donc, tout ce que ça nous dit, c'est qu'avant la fondation du monde, Dieu a choisi, Dieu nous a élus, Dieu nous a choisis pour qu'on soit ses enfants. Mais ce choix-là, ce n'est pas basé sur le choix, mais basé plutôt sur la volonté. Regardez la fin du verset. « Selon le bon plaisir de sa volonté. » Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus. Sur quelle base? Sur la base de son bon plaisir, selon sa volonté, sur sa volonté à lui. Versets 11 et 12, un peu plus loin, Paul continue, il dit « En lui, en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Il a fait de ses enfants des héritiers par élection. Il a prédestiné certains à devenir ses héritiers. Comment? Suivant le plan de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté. Ce que je comprends d'Éphésiens 1, c'est que la base de mon salut, la base de mon élection, c'est la volonté de Dieu. Dieu a décidé, selon son bon plaisir, dans sa grâce, de me sauver, de me choisir pour être son enfant. Et ça, c'est suivant le plan de celui qui opère toutes choses. Tout ce que Dieu fait, il le fait selon sa volonté, selon ce qu'il décide. Et ça, ça nous ramène à la souveraineté de Dieu qu'on a vue ensemble. Un peu plus tôt, on a parlé de la personne de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Tout ce que Dieu fait, il le veut. Il fait ce qu'il veut. Et tout ce qui arrive dans l'univers, tout ce qui arrive dans la création, c'est soumis à la souveraineté de Dieu, à son pouvoir, à son autorité. Et donc, la doctrine de l'élection vient s'insérer, en quelque sorte, dans toute cette doctrine-là de la souveraineté de Dieu sur toute chose. Que Dieu contrôle et Dieu dirige sa création selon son bon plaisir, selon sa volonté pour l'amener à terme. Et nous, on s'insère là-dedans comme individus. Et on s'aperçoit que dans sa souveraineté, Dieu, selon son bon plaisir, selon sa volonté, on a choisi certains. On va aller un peu plus loin parce que je sais... Oui. Oui. Il y en a plein qui vont vous poser les mêmes questions. Oui, vas-y, allez-y. Oui. À quoi ça sert? De prier. OK. Je retiens votre question, OK? Parce que je veux y répondre. Oui, je veux y répondre. On va aller voir les autres versets dans les Écritures, puis je vais répondre à votre question parce que je pense que c'est une excellente question qui vient un peu nous bouleverser et puis nous dire, bien, ça me donne, si Dieu a déjà choisi d'avance ceux qui allaient être sauvés, ça me donne quoi de prier pour le salut de mon garçon ou mes enfants que je veux qu'ils viennent au Seigneur? Mais c'est une excellente question, mais je vais la garder un petit peu plus tard. Je ne vais pas l'oublier, mais si je lève la main avant la fin, là, si jamais je l'oublie, rappelez-la moi, OK? Je veux y répondre. Oui. Fait que d'autres passages que je veux qu'on aille voir ensemble. Actes 13, 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Les païens qui entendaient l'Évangile, que Paul est en train de prêcher l'Évangile dans le contexte. Là, Paul est en train de prêcher l'Évangile. J'ai un blanc de mémoire sur le nom de la ville où il était. C'était à Antioche de Pisidie. Il était à Antioche de Pisidie et puis il est en train de prêcher l'Évangile aux païens. Et les païens se réjouissaient en entendant l'Évangile. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Qui sont ceux qui ont cru en entendant l'Évangile? Ceux qui avaient été prédestinés, ceux qui avaient été destinés à croire, c'est ceux-là qui ont cru. Romains 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? C'est que Dieu, ceux qui s'étaient choisis d'avance pour être sauvés, qu'est-ce qu'il fait? Il les appelle à lui aussi. Il met en œuvre tout ce qui a besoin d'être mis en œuvre pour qu'ils puissent entendre l'Évangile et puis croire. Et on a vu avec la doctrine du Saint-Esprit que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans les cœurs pour ouvrir l'intelligence, pour saisir l'Évangile et croire. Mais ce que Dieu fait, c'est que ceux qui sont prédestinés, il les appelle à lui. Paul continue dans Romains 9. Il parle de l'élection. Et là, on parle dans l'Ancien Testament, une élection qui a eu lieu dans l'Ancien Testament. Un choix qui a été fait entre deux enfants, entre Jacob et Ésaü, les enfants de Rebecca, les enfants d'Isaac. Et qu'est-ce qu'il dit? Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Parenthèse que Paul fait. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon ce qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce que Paul est en train d'expliquer dans Romains 9? Il dit, il y a eu un choix à un moment donné. Dieu a fait ce choix-là. Et ce n'était pas sur la base des œuvres qu'un ou l'autre allait faire. C'était seulement sur la volonté de celui, basé sur la volonté de celui qui appelle. Qu'est-ce que Dieu a fait? J'ai choisi Jacob. J'ai décidé de ne pas choisir Ésaü. J'ai choisi Jacob. Et le choix de Jacob à la place d'Ésaü n'était pas basé sur les choix ou les actions que Jacob allait faire plus tard dans sa vie. Et si on regarde la vie de Jacob, il y a eu des moments pas mal difficiles. Il était un pécheur comme nous. Et puis, certainement pas le choix de Dieu. Jamais on voit dans les Écritures que le choix d'Israël, le choix de Jacob, le choix d'Israël comme nation était basé sur leurs œuvres ou sur les œuvres de Jacob. Il était basé sur la volonté de Dieu, que Dieu avait décidé de choisir Jacob et pas Ésaü. Je sais que c'est tough, là. Je sais que c'est tough à tout saisir ça. Mais c'est ça. Je fais juste mettre les Écritures devant vous, OK? C'est ça le point. Mais c'est ce que je comprends du texte. Romains 11, les versets 7 et 8. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, « Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. » Donc, qu'est-ce que Paul est en train de parler? Paul est en train de parler d'Israël. Puis dans Israël, même si c'était le peuple élu de Dieu, ce n'est pas tout l'Israël qui est élu. Il y en a juste une partie qui est élue. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y en a qui ont été endurcis. Puis même ça nous dit que cet endurcissement-là vient de Dieu. Mais qu'il y en a d'autres qui ont entendu puis qui ont cru. Donc, ce n'est pas tout Israël qui a été choisi. Israël était choisi comme nation, mais à l'intérieur d'Israël, il y a des individus, un reste. On le voit dans l'Ancien Testament souvent, le reste d'Israël. Et ce reste-là, c'est les élus, ceux qui ont cru d'avance en Jésus-Christ, à la promesse du Messie qui allait venir. Par la foi, ils ont été justifiés dans la promesse, leur foi dans la promesse. Et seulement certains ont obtenu ce que Dieu avait choisi, ce que Dieu avait offert, et Dieu les avait choisis d'avance. Donc, il dit, ce n'est pas tout Israël qui l'a obtenu, mais seulement une partie. Dans d'autres épîtres, Paul confirme que l'élection, c'est encore une fois le choix volontaire de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 1, versets 4 et 5. Je lis beaucoup de versets ce matin, mais c'est parce que je veux laisser la parole de Dieu parler. J'espère que vous comprenez ça. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. La raison pour laquelle les Thessaloniciens ont cru à l'Évangile, c'est parce qu'ils étaient élus. Paul, il dit, « Je sais que vous avez été élus parce que vous avez cru. Parce que vous avez cru, ça montre que vous étiez élu. Donc, Dieu a choisi d'avance certaines personnes pour croire. 2 Thessaloniciens 2:13, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Quand est-ce que Dieu a choisi? Dès le commencement. Est-ce que je vois que c'était sur la base des bonnes œuvres qu'il allait faire? Non. Il les a choisis en vue du salut. C'est lui qui les a choisis pour qu'ils deviennent. Et donc, ce que Paul affirme, ce n'est pas à cause de nos œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est même pas à cause de notre propre choix, mais selon le dessein de celui qui appelle. C'est le dessein de Dieu, celui qui a choisi. Et en réalité, la repentance et la foi, le fait de croire véritablement dans la vie d'une personne, lorsqu'on vit ça, lorsqu'on vit la repentance et la foi, c'est la démonstration de l'œuvre de Dieu dans nos vies et que cette personne-là, lorsqu'elle vit véritablement une véritable repentance et la foi, une nouvelle naissance, un changement de cœur, un cœur de pierre qui est changé en cœur de chair, lorsqu'on voit ça prendre place dans la vie d'une personne, on peut dire, « Hey, il était choisi de Dieu » parce qu'on a vu, dans un sens, l'œuvre s'accomplir. Et donc, en résumé, la Bible nous présente l'élection comme une œuvre souveraine de Dieu qui a lieu avant la fondation du monde, de choisir ceux et celles qui auraient part au salut en Jésus-Christ. Et non sur la base d'une préscience ou sur la base des œuvres qu'il aurait vues d'avance en eux, mais sur la base de son choix souverain, libre et volontaire. Et comme je l'ai dit depuis le début, cette affirmation-là peut être difficile à saisir, à comprendre. Mais il faut essayer de la comprendre, non pas avec notre intelligence qui est faible, puis devant l'intelligence de Dieu puis la sagesse de Dieu, notre intelligence est tellement moindre. Il faut essayer d'accepter plutôt, « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça que ça se passe, mais je veux accepter ce que ta parole me dit. » Puis je veux pas, puis dans un sens, lorsqu'on fait de la théologie, des fois, on va se poser des questions. On va pousser les réflexions un peu plus. Ça ne nous empêche pas d'essayer de pousser la réflexion puis d'essayer de comprendre. Mais est-ce que ce serait parce que Dieu voudrait agir d'une autre façon? Est-ce que c'est exactement ça? On veut pousser la réflexion. Mais à la fin, lorsqu'on fait de la théologie puis on dit les principes de la parole de Dieu puis on déclare ces principes-là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que ce qu'on déclare soit conforme aux Écritures. Et lorsque, pour ma part, ma conviction, c'est lorsque je vais dans le sens de la position plus arminienne, qui dit que c'est sur la base d'une préscience, mais je ne vois pas ça dans les Écritures. Je le vois plutôt que c'est sur la base de sa volonté. Ça, c'est ma conviction. Peut-être que vous arrivez à une autre conviction différente, puis avec vos réflexions, vous allez arriver à une autre conviction. Je vous donne la mienne. Je pense que, avec les passages qu'on voit dans les Écritures, Dieu est souverain sur toutes choses et même souverain dans le salut, dans le choix de ceux qui s'est choisi pour être sauvés. Maintenant, cette doctrine-là, on pose des questions, puis on arrive avec nos questions humaines devant le texte biblique, puis on essaye de comprendre Dieu, de comprendre le plan de Dieu. Mais ce qu'il faut faire, c'est aussi prendre un peu de recul par rapport à nos propres questions, puis dire... Comment le Nouveau Testament me présente la doctrine de l'élection? Est-ce que ça me présente ça comme quelque chose de comme, « Oh, c'est ordinaire, tu sais, Dieu a choisi juste quelques personnes, puis les autres, j'ai vu qu'ils n'ont pas choisi, ils n'ont comme pas de chance là, tu sais, d'être sauvés. » Il me semble que c'est poche. C'est de même que le Nouveau Testament nous présente la doctrine de l'élection? Pas en tout, pas du tout. Fait que là, il faut se placer et dire, « OK, comment Dieu me parle de l'élection? Est-ce que c'est quelque chose de joyeux ou c'est quelque chose de comme triste? » Non, je pense que c'est quelque chose de joyeux, puis on va le voir ensemble. Premièrement, la doctrine de l'élection, elle nous est présentée dans Romains 8, 28 à 30, on l'a lu tout à l'heure, comme un réconfort pour les enfants de Dieu. Lorsqu'on a lu tout à l'heure Romains 8, 28 à 30, il dit que, dans un sens, il y a des difficultés qui vont nous arriver. Puis là, Dieu nous dit, à travers Paul, il dit, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ceux qui l'ont connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ah, c'est tough. Seigneur, t'envoies des épreuves, mais j'ai de la misère à passer à travers, là, puis je la trouve difficile. Là. Mais ta parole me rassure et me dit que ça concourt à mon bien parce que tu veux me rendre semblable à Jésus. Wow! Merci Seigneur pour l'épreuve. Je peux voir l'épreuve comme un sujet de joie maintenant parce que tu veux me rendre semblable à Jésus. Mais encore plus que ça, Paul est en train de dire, ceux qui ont prédestinés, je les ai appelés. Puis ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. Je les ai rendus justes devant Dieu. Puis ceux que j'ai justifiés, je vais les glorifier. Je les ai déjà glorifiés, mais ils vont vivre la glorification finale. Ils vont être dans ma présence pour l'éternité. Hey, Seigneur, merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir choisi. Merci d'avoir fait de moi ton enfant parce que ton plan il est parfait. Puis un jour, je vais être avec toi pour l'éternité. Fait que devant l'épreuve, qu'est-ce que ça sert l'élection? Ça me réconforte. Moi, personnellement, parce que j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai cette promesse-là qu'un jour, je vais être avec lui pour toujours. Ça ne répond pas à toutes mes questions, mais ça vient me réconforter dans ma marche avec le Seigneur. Une autre chose que la doctrine de l'élection fait, c'est que ça nous donne une raison pour louer Dieu. Et on a vu dans Éphésiens 1, puis on le voit dans 1 Thessaloniciens aussi. Pour quelle raison Dieu nous a élus avant la fondation du monde? Afin que nous servions à célébrer sa gloire. On était pécheurs, on était loin de Dieu. Chacun d'entre nous, loin de Dieu, perdu, avec une vie qui n'avait aucun sens. Dieu nous avait créés pour qu'on puisse lui rendre gloire. Et dans sa grâce, parce que Dieu, il aurait pu tout dire, cette humanité-là, je vais toutes les détruire, je vais toutes les envoyer en enfer. Ils ne méritent pas ma grâce, je vais les envoyer. Non, dans sa grâce, Dieu a décidé de choisir certaines personnes qui allaient être sauvées. Dans quel but? Dans le but de le servir, dans le but de rendre la gloire. Puis à travers ça, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un sens à notre vie. C'est-à-dire, ma relation avec Dieu maintenant, d'être en relation avec Dieu, puis voir, de contempler la gloire de Dieu en Jésus-Christ, puis de louer Dieu. Personnellement, moi, je veux dire, l'Esprit est à l'œuvre en moi, puis quand je suis dans la louange, puis que je loue Dieu avec les Écritures, avec la vérité des Écritures, man, il n'y a pas mieux que ça. J'ai hâte d'être au ciel pour louer Dieu pour tout le temps. Puis ça finira plus. Mais la louange à Dieu, pas seul, ça amène la louange à Dieu puis toute la gloire à Dieu. Mais Dieu nous donne notre bonheur aussi à travers ça. Le vrai bonheur se trouve dans une vie qui glorifie Dieu. Et la doctrine de l'élection, ce que ça permet, c'est de réaliser, Seigneur, je ne méritais pas cette vie-là, cette vie comblée-là que tu me donnes en toi. Mais maintenant, je l'ai puis je veux te louer pour ça. Une autre. Puis là, je vais arriver à votre question, Mme Paradis. OK? La doctrine de l'élection, c'est un encouragement pour annoncer l'Évangile. Pourquoi? Si Dieu choisit juste certaines personnes, puis que finalement, ils vont venir au Seigneur un jour, il va faire ce qu'il faut, pourquoi c'est un encouragement à partager l'Évangile? Bien, justement, Paul est dit dans 2 Timothée 2,10, « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. » Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Et qu'est-ce que c'est en train de. Qu'est-ce que. Paul, il supporte toutes choses, les persécutions dans la prédication de l'Évangile. Il est persécuté, il vit toutes sortes d'oppressions, autant de la part des chrétiens, on lit dans 2 Corinthiens, qu'il souffrait même de la part des chrétiens, que des non-croyants. Il a souffert énormément pour l'Évangile, pour prêcher l'Évangile. Il dit : Je supporte ça. Parce que je le sais que Dieu en a choisi. Mais je ne sais pas lesquels. Je ne sais pas qui Dieu a choisi, moi. Moi, je n'ai pas cette connaissance-là. Je ne savais pas qu'un jour, Hélène Paradis elle viendra au Seigneur parce que Dieu l'a élue. Je ne savais pas que Basile, un jour, viendra. Je ne le connaissais même pas. Mais je ne sais pas, moi, qui autour de moi est choisi de Dieu. Mais Paul, il dit, c'est ça qui me motive à prêcher l'Évangile. Je le sais qu'il y en a des élus. Je sais qu'il y en a qui ne croiront pas, mais je sais qu'il y en a qui vont croire. Puis ma motivation, c'est de dire, je vais la prêcher l'Évangile, dans l'espérance que dans ceux à qui je vais prêcher, il y en a que Dieu a choisi et qui vont venir à lui. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas. J'ai 4 enfants. Ils sont élevés dans une famille chrétienne, on va le dire comme ça. Ils sont élevés dans la ouate puis dans l'enseignement chrétien. Ils disent tout de leur bouche présentement qu'ils croient à l'Évangile. Puis je crois que si un de mes enfants meurt aujourd'hui, ils ont la foi, avec la foi qu'ils démontrent, je pense qu'ils sont sauvés. Mais ce qui va me le montrer réellement, c'est leur persévérance dans la foi. Est-ce que je peux déjà dire, sont sauvés, puis je suis convaincu, il n'y a aucun problème? Peut-être par une grâce de Dieu, Dieu peut me convaincre par son esprit. Mais ce qui va me le démontrer clairement, c'est les fruits dans leur vie. Mais je continue à prier. Seigneur, s'il croit vraiment, qu'il marche avec toi, qu'il continue de marcher avec toi. Fait que pour votre garçon, vous ne le savez pas si Dieu l'a choisi. Présentement, il ne démontre pas que c'est ça, mais on ne sait jamais. Puis tant que la personne n'a pas donné son dernier souffle, on ne sait pas s'il est élu ou non. J'ai célébré, il y a 3 semaines, les funérailles d'un homme, un professeur d'université à Québec. Et il a eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Il souffrait d'un cancer, puis dans les derniers moments de sa vie, il a eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Et sur son lit de mort, 2-3 jours avant son décès, il a saisi l'Évangile. On pouvait-tu dire, ce gars-là, il n'est pas élu? J'ai déjà entendu des chrétiens dire ça. « Ah, lui, il ne croit pas, c'est parce qu'il n'est pas élu. » Hey, on ne le sait jamais. On ne sait pas ça. C'est juste Dieu qui le sait. C'est juste Dieu qui le sait. Puis moi, ma responsabilité, c'est de continuer de prêcher l'Évangile. Puis même si des fois les cœurs sont durs, d'être un témoignage de l'Évangile pour ces gens-là, parce que je ne sais pas le moment où Dieu va décider de faire un déclic dans leur cœur pour qu'ils saisissent la grâce. Fait que je continue. Puis à travers ça, d'où vient la prière là-dedans? Mais je pense que des fois, puis dans tout ce que Dieu a déjà prévu d'avance, dans sa souveraineté, Dieu, il veut qu'on s'approche de lui comme des enfants puis qu'on dépende de lui. Puis qu'on dise, Seigneur, ça ne dépend pas de moi le salut de mon garçon. Ça dépend juste de toi. Je te prie, Seigneur, de le sauver. Puis peut-être que Dieu, dans sa souveraineté, a prévu que votre prière allait contribuer au salut. Il allait, on ne sait pas. Peut-être que dans la démarche d'amener votre garçon au salut, si Dieu a ça pour lui, puis si Dieu le permet, peut-être que votre prière allait contribuer à votre foi à vous, puis à sa foi à lui éventuellement. On ne sait pas. Mais la prière, pour nous, c'est de dépendre de Dieu dans ça. Oui, Miguel, oui. Oui, oui, c'est ça. La foi en Jésus-Christ, c'est le fruit de l'élection. Puis dans un sens, comme on a vu dans l'ordre du salut, l'élection, ça demande aussi la prédication de l'Évangile, comprendre ce que Christ a fait pour nous, toutes ces étapes-là, et qui nous amènent finalement à saisir, oui, c'est la véritable foi qui manifeste dans le fond une nouvelle naissance, c'est le fruit de l'élection de Dieu. Donc, ce n'est pas l'élection qui est le fruit d'une foi, de la foi, mais plutôt l'élection est la cause de la foi. Oui, c'est ça. J'espère que je réponds bien à ta question. Oui, oui, allez-y.
Dans cette façon de penser, oui. Ça pourrait être appliqué aussi aux gens qui ont décédé déjà, que peut-être on a vu dans sa vie qu'il était plus proche.
Oui.
Mais toujours, les parents ont prié. Et moi, je l'ai fait pour mon père. Mais alors, si on ne sait pas vraiment si on est choisi, qu'est-ce qu'on peut dire à une personne qui n'y croit pas pour l'aider à croire?
Oui. Oui. Oui, c'est ça. Je pense que, juste pour répéter la question dans un sens, qu'est-ce que je dois dire à quelqu'un que je ne sais pas, là, tu sais, il choisit ou il ne choisit pas, il ne démontre pas de choix clairement, puis on sait que c'est, dans le fond, Dieu a choisi d'avance. Et qu'est-ce qu'on dit? Dans le fond, ce que je crois, par exemple, c'est que, à quelque part dans sa vie, un élu va manifester sa foi. Ça se peut que ce soit intérieur. Ça se peut que ce soit sur les derniers moments de sa vie. Puis que je n'ai jamais vu de fruit des derniers moments de sa vie. Fait que je juge sur les fruits que j'ai vus dans sa vie. Mais on a toujours cette comme espérance-là, si je peux dire, de dire, bien, on ne sait jamais qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers moments de sa vie. Est-ce qu'après avoir entendu l'Évangile, il a cru? Une chose que je veux peut-être clarifier, par exemple, c'est qu'une fois que la personne est décédée, si, parce que j'en ai entendu souvent des gens qui ont clairement rejeté la foi, puis même jusque dans les dernières minutes, Ils ont clairement rejeté la foi. Des fois, je peux pas. Je suis obligé de me prononcer, de dire, ben, personnellement, si tu me demandes, ben, je crois pas qu'il s'est converti avant sa mort. Puis de ça, je pense pas qu'après ça, il y a une deuxième chance. C'était dans le moment de sa vie que sa chance, qu'il y avait le moment de se repentir. Donc, je peux pas dire, je peux pas affirmer hors de tout doute puis dire, ben non, il est absolument pas. C'est juste Dieu qui sait ça. Mais je peux quand même me prononcer et dire, bien, si tu me demandes mon opinion, bien, ce que j'ai vu toute sa vie, puis jusqu'à la fin de sa vie, c'est qu'il y avait un cœur dur, puis il n'a jamais saisi par la foi. Fait que, je ne sais pas si ça répond à la question, là, oui. 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 Oui, c'est ça. Je pense que dans ce passage-là, Paul est en train d'encourager celle qui a un mari non-croyant, en quelque sorte, pour dire, c'est pas elle qui détermine l'élection, c'est Dieu qui le sait. Mais nous, on ne sait pas. Puis nous, on ne sait pas ce que Dieu a planifié d'avance pour les gens qui placent près de nous. Mais continue de vivre comme une croyante, puis d'être un témoignage pour lui, puis continue. Puis peut-être que ça va contribuer à l'amener au Seigneur. Fait que dans un sens de continuer d'être un témoignage de vie chrétienne, puis témoigner l'Évangile envers son mari non-croyant. Puis des fois, là, on en a dans l'Église des gens, ça fait des années qu'ils sont chrétiens, 20 ans, 30 ans, puis le conjoint n'est pas encore au Seigneur. Continue de vivre ta foi, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner comme fruit. Mais Dieu ne nous révèle pas, Dieu ne nous le dit pas, qui est élu puis qui ne l'est pas. Puis ça se peut, puis il nous encourage à vivre l'Évangile dans un sens pour dire, vivez l'Évangile, soyez un témoignage, prêchez par vos vies, prêchez en parole, puis on sait, ça peut conduire les gens au Seigneur. Je pense que c'est dans ce contexte-là que Paul est en train de dire. Oui, oui, allez-y. Oui. Oui. Oui.
Et demi environ.
Oui.
Que je suis à la clinique médicale de Brossard.
Oui.
Là, j'apprends, la semaine qu'on vient de passer.
Oui.
Bien, Hélène Paradis, là, après la suite de son médecin, qui était à peu près là 2 ou 3 ans.
Oui.
Puis là, on m'envoie pour être l'hôpital Charlevoix.
Oui.
Une nouvelle clinique.
Oui.
J'ai pas d'auto.
Oui.
J'appelle pas sûr, vous concourez.
Concourez. Oui, 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 je comprends. Oui, oui, je comprends. Oui, oui, je comprends. Oui, OK. Oui, OK. C'est bon. Dans le fond, Mme Paradis, elle nous explique qu'elle a vécu une situation un peu désolante, si je peux dire, avec vous aviez un médecin pendant plusieurs années, 25 ans. Puis, donc, ça fait juste 2 ans, mais vous aviez un médecin pendant il est décédé, puis là, on vous transfère d'une clinique, puis loin de chez vous, vous n'avez pas d'auto, puis tout ça. Puis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu dans cette épreuve-là, ou dans les épreuves qu'on vit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il me semble que je ne vois pas de bien là-dedans. Dans le fond, c'est ça que vous êtes en train de dire, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que dans un sens, souvent, notre réaction en tant qu'être humain, puis... dans notre faiblesse, on ne le voit pas. On va poser la question. C'est quoi le bon là-dedans? Puis on regarde aussi la vie de ceux qui ont souffert dans les Écritures. On prend souvent l'exemple de Job. Qu'est-ce qu'il y avait de bon? Oui, c'est ça. À toutes les choses qui peuvent arriver, qui font en sorte que c'est pas bon, ça. Dieu n'est pas en train de concourir à mon bien. Bien, ça, je pense que c'est notre raisonnement humain. Puis... je ne peux pas me prononcer, parce que honnêtement, je vis des épreuves aussi, puis des épreuves sur plusieurs années des fois. Puis je dis, Seigneur, j'essaie de comprendre le pourquoi de cette épreuve-là, puis je le vois pas. Tu me dis que c'est pour mon bien, puis je ne vois pas de bien sortir de ça. Bien ça, je pense que c'est notre faiblesse qui crie à Dieu, puis on devrait dire, Seigneur, aide-moi à voir le bon là-dedans. Puis je pense qu'à travers l'épreuve, on ne le voit pas. Mais je pense que Dieu peut nous éclairer. Le but du Seigneur, c'est de nous amener à l'image de Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ a subi les pires souffrances. Il a passé à travers les pires souffrances. Il était dans le jardin de Gethsémané, puis il a dit, « Seigneur, si tu veux que cette coupe-là s'éloigne de moi, fais-le, parce que je ne veux pas y aller. » Je pense qu'humainement parlant, Jésus ne voulait pas y aller à la croix. Mais il dit, « Je vais faire ta volonté. » Puis ça a été, ça a tourné à la gloire de Christ, ça. Fait que des fois, je ne le vois pas, le bien. Oui, c'est ça. On essaie de comprendre pourquoi. Des fois, la réponse au pourquoi n'est pas là. Mais avec le temps, peut-être que Dieu va nous donner une réponse à notre pourquoi. Comment ça a contribué à mon bien, ça? Je ne sais pas, peut-être que vous allez faire des rencontres spéciales à cette clinique-là. Ou peut-être que Dieu va mettre quelqu'un près de vous qui va vous aider dans cette difficulté-là. Vous allez vivre la grâce de Dieu à travers ça. À première vue, des fois, on ne voit pas le bien là-dedans. Mais à long terme, des fois, en regardant en arrière, non, même si c'était vraiment une épreuve difficile, je pense qu'il y a du bon. Puis, ultimement, des fois, il n'y a peut-être pas de réponse à tous les pourquoi, mais au ciel, le Seigneur pourra nous réconforter et nous dire, regarde ce que je voulais faire avec ça. Je voulais t'aider à... Mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Je ne pense pas qu'on peut dire qu'on a toutes les réponses, le pourquoi de nos souffrances. Mais on sait que Dieu nous dit que c'est pour notre bien. On va se confier dans ça et on va dire, Seigneur, tu dis que c'est pour mon bien, je me confie en toi puis j'essaie de voir le bien là-dedans puis fais ce que tu veux avec moi dans tout ça. Puis, mais je comprends. Mais je vais... Oui. Ouais. On pourra en continuer d'en parler, Mme Paradis, OK? Je voudrais essayer de vous consoler dans tout ça, mais on a manqué de voir toute la partie sur la réprobation. Je vous encourage à aller voir les versets des Écritures parce que, bon, on a manqué de temps, mais je voulais juste comme vous montrer ce matin que l'élection... Cette doctrine-là qui est basée sur la volonté de Dieu, des fois difficile à comprendre, c'est quelque chose de glorieux. C'est que, dans le fond, je ne méritais rien. Puis le Seigneur m'a choisi. Puis c'est seulement par sa grâce que je suis sauvé. Ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par rien, même pas par le fait que j'ai choisi. Je n'ai même pas contribué à ce choix-là. C'est Dieu qui m'avait choisi. Puis toute la gloire va à Dieu seul. Puis ce que je veux faire maintenant, c'est louer Dieu. Puis le remercier pour ce qu'il a fait pour moi. Puis l'adorer pour ça. Et c'est ça qui devrait être notre réponse. Et je vous encourage à le faire. On va aller avoir un temps de célébration. Célébrez Dieu pour le fait que vous appartenez à Jésus-Christ. Célébrez-le parce que c'est la plus belle chose qui ne pouvait pas nous arriver. Puis Dieu nous a fait grâce. On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Si ce salut-là avait dépendu de moi, Seigneur, je serais perdu pour l'éternité. C'est seulement toi, par ta grâce, Seigneur, qui a permis que je puisse venir à toi. Tu as permis que j'aie des parents qui t'aimaient, qui aimaient ton évangile, qui m'ont enseigné ton évangile dès mon jeune âge. Tu m'as permis de vivre dans une famille chrétienne. Puis à travers ça, Seigneur, tu as ouvert mes yeux pour que je puisse voir que Christ était ma seule solution pour être pardonné de mes péchés. Seigneur, merci du fait que maintenant je peux être considéré ton enfant seulement par ta grâce. Merci de m'avoir conduit jusqu'à toi. Et Seigneur, utilise ma vie, utilise nos vies, Seigneur, pour ta gloire. Que notre vie puisse servir à ce dessein d'élection, ce plan que tu avais pour nous, qu'on puisse célébrer la gloire de ta grâce que tu as manifestée pour nous en Jésus-Christ. Viens nous conduire dans cette célébration, Seigneur, que nos cœurs puisse être touché par ton esprit, que ton esprit puisse éveiller en nous des affections, des sentiments d'amour pour toi, qui veulent l'exprimer à travers les chants et en recevant ta parole pour nos vies. Viens nous bénir ensemble et que ton nom soit glorifié en toutes choses. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.
Prendre ce qui pousse Dieu à la miséricorde, afin de devenir plus miséricordieux nous-mêmes. Donc, ressembler à Dieu. On va chercher à découvrir les gestes de miséricorde auxquels Dieu appelle tous les chrétiens. Ça se traduit en action, c'est ça qu'on a dit. C'est une pitié qui passe à l'action. On va chercher à découvrir auprès de qui Dieu nous appelle à faire preuve de miséricorde. Puis chacun pour soi, pour nous-mêmes, dans nos petits groupes, personnellement, dans nos familles, dans notre couple, dans notre maison, individuellement. Chercher à identifier pour nous-mêmes où Dieu nous appelle à grandir dans notre miséricorde afin de ressembler davantage à Jésus-Christ. Ça vous intéresse? On va grandir ensemble, puis Puis l'Église est en train de grandir. L'Église de Longueuil, l'Église de l'Espoir est en train d'être façonnée à l'image de Christ et on l'entend. Elle est loin d'être parfaite. Je vous le dis, je sais tellement qu'elle est loin d'être parfaite. Mais l'Église est en train de grandir. Ce matin, on va faire quelque chose pour le passage biblique. On va faire un, pendant l'exposé, on va faire une espèce de survol, comme on a fait en janvier, de la Genèse à l'Apocalypse. Puis je vais me promener un peu partout. On veut mettre la table pour la série. Alors, ce qu'on a décidé de faire pour la lecture du passage biblique, c'est pas là-dessus que je vais prêcher. On s'en va dans Marc. Jérémie va nous lire un passage où on voit Jésus passer à l'action puis vraiment être miséricordieux. Et j'aimerais ça qu'on puisse lire et écouter ce passage-là en commençant déjà à adorer Christ dans nos cœurs puis à voir comment on veut lui ressembler. Comment on veut être accueillant, aimant, chaleureux comme lui, rempli de miséricorde. On va prier ensemble. Père éternel, cette assemblée, cette église, toutes les églises, Seigneur, sont le fruit de ta miséricorde envers l'humanité. Tu as fait grâce aux hommes, Seigneur. Tu as fait grâce aux êtres humains partout sur la terre, à tous ceux qui reconnaissent cet acte de bonté ultime que tu as posé à travers ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, on va célébrer tantôt le repas du Seigneur. On va célébrer le plus grand geste de miséricorde, concevable. Puis on va venir se réjouir, Seigneur, de savoir que tu nous aimes, que tu nous as accueillis, que tu nous as adoptés, que nous sommes entrés dans ta famille, dans ta maison, Seigneur. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Viens nous parler de ton projet pour l'humanité. Viens nous parler de ta grâce, Seigneur. Viens nous parler de ta bonté. Viens élever Christ à nos yeux ce matin, Seigneur. Transporte-nous afin que nous voyions sa beauté et qu'en voyant, Seigneur, sa beauté, nous soyons transformés à son image. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.
Le passage biblique de ce matin est tiré de Marc 5, versets 21 à 43, dans la nouvelle édition de Genève. Marc 5, versets 21 à 43, dans la nouvelle édition de Genève. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi ?» Faites-vous du bruit. Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita kumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille.
Merci, Jérémie. À travers la série, on va développer ensemble qu'est-ce que cette miséricorde-là veut dire concrètement pour nous. Quotidiennement, dans nos attitudes, nos agissements, notre manière de voir les gens autour de nous, comment est-ce que Dieu veut nous transformer? Mais ce matin, comme je le disais, on veut mettre la table pour la série. Puis c'est difficile de comprendre, en fait c'est impossible de comprendre la miséricorde de Dieu envers l'humanité si on ne comprend pas le projet de Dieu pour l'humanité. C'est comme s'il faut commencer dans la Genèse pour que ce geste-là, Christ qui vient donner sa vie, le geste ultime de miséricorde, prennent du sens. Autrement, on n'avait pas besoin de ça. Et donc, il faut retourner vraiment au début des Écritures, au début de la Bible, pour comprendre la miséricorde. Et plusieurs d'entre vous, vous allez voir, c'est comme si on revoit quelque chose, même qu'on a vu en janvier, mais c'est comme s'il faut toujours garder ça à l'esprit. Le projet de Dieu dans Genèse, le projet de Dieu dans l'Apocalypse, ce que Dieu veut rétablir pour comprendre qu'est-ce que nous, on a à faire entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait ici sur la terre? L'Église est appelée à faire quoi pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'on représente? Parce qu'on est vraiment dans un entre-deux, entre un monde que Dieu a créé parfait et un monde que Dieu va rétablir parfait. Et nous, on vit entre les deux. Et le rétablissement a commencé. On va voir ensemble ça ce matin et ça va nous permettre dans les prochaines semaines de comprendre quelles sont les qualités, qu'est-ce que Dieu veut développer dans l'Église de l'Espoir, comment est-ce que Dieu veut nous transformer. Alors, il faut qu'on commence avec un autre mot, d'accord? Je mets une pause sur miséricorde, je vais revenir à la fin complètement de l'exposé. Le mot « paix ». Luigi a commencé à l'introduire tout à l'heure, le « shalom » de Dieu. C'est un mot super important dans la Bible, c'est un mot qui revient constamment dans les Écritures, énormément dans l'Ancien Testament, mais il est très, très présent aussi dans le Nouveau Testament. Shalom, c'est un mot que tout le monde connaît. On en a parlé de ça aussi en janvier. On a parlé surtout dans le terme de la réconciliation. On va en parler autrement ce matin. Shalom, lorsqu'on le traduit en français, ça veut dire paix. D'accord? Mais c'est un mot qui est plus riche que... Si je vous dis paix, probablement que votre réflexe, ça va être de penser à l'absence de conflit. On peut-tu avoir la paix? On veut que ça arrête de brasser dans la maison. On veut du calme. Ah, déjà, on se rapproche. Déjà, on se rapproche. On veut de la sérénité. On veut que les choses se passent bien. On veut être capable d'être heureux. Le mot « shalom » dans les Écritures est beaucoup plus vaste que simplement l'idée de dire l'absence de conflit. Je vous lis juste deux versets dans le psaume 122. C'est une prière. « Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. » Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Voyez-vous, c'est un terme plus riche que juste l'absence de conflit. Ce mot-là porte des idées comme celle-ci, une plénitude, de l'épanouissement, une abondance qui est présent, une espèce de sentiment d'achèvement. C'est ce qui se produit lorsque Dieu est présent puis que tout se passe comme Dieu le voulait pour l'humanité. C'est le shalom de Dieu qui est présent à ce moment-là. C'est pas juste qu'il n'y a pas de chicane. C'est que Dieu est là, puis tout se passe comme ça devait se passer. J'aime bien comment le pasteur Stephen Hume résume shalom. Je vous le dis en anglais, puis je vous traduis ensuite. « Shalom is shorthand for the way the world was meant to be. » Le shalom de Dieu résume tout ce que Dieu voulait pour le monde qu'il a créé. Alors, lorsqu'on se tourne dans Genèse, on s'en va voir ensemble un moment dans l'histoire de l'humanité où le shalom, la paix de Dieu, était là, puis les êtres humains vivaient. dans ce shalom-là. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Vous allez voir, c'est vraiment un survol. Dieu a créé un monde merveilleux où régnait sa paix, sa plénitude, son shalom. Le péché a détruit, on pourrait dire pulvérisé, cette paix. Mais déjà, nous voyons que Christ est venu pour la restaurer. Il est venu manifester la miséricorde de Dieu en ramenant la paix de Dieu. En ramenant la paix de Dieu. Un monde merveilleux comblé par le shalom de Dieu. Si on veut comprendre la miséricorde, comme on va l'étudier à travers toute la série, il faut revenir au départ au projet de Dieu. Il faut comprendre qu'est-ce que Dieu voulait pour l'humanité. On lit dans Genèse 1, versets 26 à 28. On est un petit peu avancé dans la création, puis on lit ceci. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. » Et il leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Quand on lit la description de la création puis le projet que Dieu avait pour l'humanité, c'est comme un endroit parfait où l'être humain peut être tout ce qu'il a été appelé à être, puis vivre dans une harmonie avec Dieu, puis une harmonie les uns avec les autres. Juste quelques éléments rapidement qu'on trouve là, puis qui nous aident à comprendre un peu, c'est quoi qui se passe lorsque tout fonctionne tel que Dieu le voulait pour les hommes. Bien, premièrement, Dieu est présent, Dieu est en communion. Dieu est là constamment. Le Créateur, celui qui a tout designé, est là, puis il veille au grain. Deuxièmement, lorsqu'on arrive à la création de l'homme et de la femme, on voit que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Dans toute la création, seul l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que tout être humain a été créé avec une dignité particulière. Dans toute la création, seul l'être humain est créé avec cette dignité-là. En soi, parmi tout ce que Dieu a créé, seuls les êtres humains sont faits à l'image de Dieu. Et donc, tous les êtres humains, à quelque part, devraient être traités dans le plan de Dieu avec une dignité particulière. Cette semaine, j'ai vécu quelque chose qui m'a honnêtement troublé. Puis plus je prenais conscience de ce que j'avais vu, plus j'étais troublé. Je vais vous le raconter brièvement, mais... J'étais allé faire des commissions, j'étais dans un centre d'achat de la Rive-Sud, puis le phénomène d'itinérance augmente de plus en plus, hein, sur la Rive-Sud. Donc, ceux qui sont ici depuis longtemps, vous le voyez. Puis fait que j'étais dans ce centre d'achat-là, puis je passe à côté, il y a un restaurant, puis le restaurant il y a une place en lui-même, mais il y a des tables aussi, comme dans le corridor. Fait que pendant que je rentre, je vois un monsieur qui rentre, qui de toute évidence a certaines difficultés dans la vie. C'est évident juste dans son apparence. Il a l'air de quelqu'un qui se parle un peu à lui-même. Puis bon. Fait qu'il rentre. Puis là, il y a des gants. Puis je le vois commencer à fouiller dans une poubelle du restaurant. Puis sur le coup, j'ai comme pas cliqué. C'est juste, c'était là dans mon champ de vision, mais j'étais pas conscient de ce qui se passait. Fait que je m'en vais faire mes commissions. Puis lorsque je reviens, hop, je vois deux dames qui sont en train de jaser, assis à la table, en train de manger, tout ça. Puis je continue. Puis là, je réalise que le monsieur que j'avais vu en train de fouiller dans la poubelle est assis à une table en train de manger. Puis là, j'ai dit, « Ah, il est en train de manger. » Mais là, plus je m'en allais, plus je dis, « Attends un peu, là. » Parce qu'il y avait une assiette, il y avait de la bouffe, il avait déposé ses gants qu'il avait dans ses mains. Puis là, je me suis retourné, puis j'ai dit, « Ah, il est en train de manger ce qu'il a ramassé dans la poubelle. » Dans une assiette. Puis ça avait l'air tellement normal que sur le coup, j'ai pensé qu'il était allé s'acheter un repas puis qu'il était en train de manger. Puis j'étais juste comme abasourdi, j'étais juste comme... Mon cerveau, j'essayais de mettre tout ça ensemble. J'avais eu l'impression que je voyais quelqu'un qui mangeait au restaurant, vous comprenez? Parce qu'il était assis à une des tables du restaurant, puis il était en train de manger. Mais l'assiette qu'il y avait devant lui, c'était les restants de quelqu'un d'autre. Puis là, il était en train... J'ai pris le temps en regardant une deuxième fois, je dis, « Ah, il est en train de chercher ce qui reste de poulet là-dedans. » Là, je suis parti, puis j'étais bouleversé. La dignité. comprenez? La dignité. C'est correct qu'il est en train de manger. Il y a du monde qui font ça. Je lis des fois des blogs, puis il y a des gens qui font ça aux États-Unis. Ils disent, c'est pas possible, les Nord-Américains, vous jetez votre chou gras, puis juste en fouillant dans vos poubelles, on peut bien vivre. Ouais, je comprends, là, mais il y a de quoi qui ne marchait pas là-dedans. Là. J'aurais préféré dire, regarde, attends, viens, je vais aller t'acheter un repas, on va s'asseoir, je vais manger avec toi. C'est ça un repas, c'est un moment de communion. C'est pas que tu manges ce que j'ai jeté dans mes poubelles. La dignité humaine. Dans le plan original de Dieu, tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu et par le fait même, méritent d'être traités avec une dignité propre parce qu'ils sont tous portants de cette image de Dieu. Un autre élément, Dieu crée l'homme et la femme. Il y a cette diversité-là qui est là, qui est présente, qui parle du shalom de Dieu, où on va être différents, mais on a besoin les uns des autres. Est-ce qu'on est différents, les hommes et les femmes? On est tellement différents. Mariez-vous, vous allez comprendre. Tellement différents. Mais on a besoin de cette diversité-là. Ça fait partie du projet de Dieu. Dans les bons plans de Dieu, on allait être différents et vivre ensemble. Mais rapidement, juste quelques éléments. Le travail. Dieu donne à l'être humain, il dit, OK, là maintenant, vous allez vous multiplier, vous allez fonder des sociétés, il va y avoir des familles, vous allez dominer sur la terre, vous allez être des régents de la terre, vous allez prendre soin de toutes choses sur la terre. Vous avez un mandat. En théologie, souvent, on appelle ça le mandat culturel. C'est comme si on était appelé à développer une culture partout sur la terre de vie commune, d'amour, où on est là puis on prend soin de la terre. Puis ça doit être un jardin magnifique, dans le fond, à la grandeur de la planète. C'est ça qui est là dans le mandat. Vous allez vous multiplier, vous allez remplir la terre. Ça, c'était le plan de Dieu. Quand Dieu est là parmi les hommes, quand les hommes sont en communion avec Dieu, quand les choses se passent comme Dieu les a designées, c'est ça qui se passe. Tu as des êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu. Chacun a une dignité propre parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et puis on est différents, on est divers, puis on vit ensemble dans une communion, puis une communion avec Dieu, puis on s'occupe de la terre, puis on bâtit une société, on bâtit une culture ensemble, puis on prend soin de la planète Terre en plus. Vous comprenez? C'est ça le plan de Dieu. Lorsque le shalom de Dieu est présent. Quand Dieu est présent, c'est pas simplement qu'il y a l'absence de conflit, c'est qu'il y a une plénitude. Il y a une abondance, il y a un sentiment d'achèvement. Toute chose se passe comme Dieu l'avait conçu. C'était le plan de Dieu, un monde absolument merveilleux, absolument extraordinaire. Maintenant, vous connaissez la suite de l'histoire. Hein? L'être humain, dans cette condition-là, pouvait jouir de la communion avec Dieu, pouvait jouir les uns des autres, de la création, pouvait s'épanouir, mais il y avait une condition. Pour que cet équilibre-là demeure, il fallait absolument que cette humilité-là, ce rapport avec Dieu saint, où on reconnaît que c'est notre bienfaiteur, puis que les choses ont un ordre, les choses ont été créées avec un sens, les choses ont été créées pour fonctionner d'une certaine manière, cela devait être respecté, parce qu'autrement, le shalom allait être brisé. La paix de Dieu, la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu sur l'humanité allait être pulvérisé sans cela. On lit dans Genèse 2, versets 16-17, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et je ne vais pas prendre le temps ce matin de voir ça plus en profondeur. Je vais juste vous rappeler une illustration que je me suis servi, parce que je vais aller plus sur les conséquences ce matin. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'illustration de la télévision. Parce que souvent, lorsqu'on arrive là-dessus, il y a des gens qui réagissent puis qui disent, « Attends un peu, là, Dieu a comme tout créé parfaitement, mais il fallait absolument qu'il leur mette une tentation dans le jardin. Pourquoi il a mis une tentation dans le jardin? Dieu ne tente pas l'homme à faire le mal. Dieu a simplement laissé un manuel d'instruction dans le jardin qui dit, « By the way, c'est vraiment trippant ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a une règle à respecter. » C'est qu'il faut que tu demeures en communion avec moi. Il faut que tu reconnaisses que je suis Dieu. Alors, il y a une règle qui doit rester si tu veux que le shalom demeure éternellement. Et ce n'était pas une tentation, c'était une règle pour que tout fonctionne bien à la gloire de Dieu, pour le bonheur de l'être humain, le bonheur des hommes. Puis c'est un peu comme l'histoire de ma TV, je vous rappelle mon illustration. Tu t'en vas t'acheter une super télé, malade, super belle. Puis tu sais, une télé intelligente, ta branche dans le mur, elle te dit « Bonjour Yannick ». Là, tu commences à avoir peur, tu sais, puis elle dit « Oh, Yannick, tu as pris un peu de poids, à ce que je remarque. Ça serait bien que tu coupes un peu dans les sucres dorénavant. » Il y a quelqu'un qui m'a dit, il est rentré chez eux, puis je sais pas, là, c'était un jeu, un Xbox, qui a commencé à s'adresser à lui, il freakait un peu. Mais, tu sais, c'est une TV super intelligente, même pas besoin de manuel d'instruction. Il y a juste comme un collant en travers de la TV, « Ne pas mettre dans l'eau », tu sais. Seule règle. Vous vous rappelez de mon illustration? C'est-tu une tentation? Tu sais, il y a un sticker, c'est marqué « Ne pas mettre dans l'eau », puis là, t'es comme « Tout allait bien, mais là, il a fallu que je sois tenté. À partir de maintenant, chaque fois que je vois ma TV, j'ai comme « Je m'en vais prendre ma douche, ça me démange, j'ai le goût de prendre ma TV, puis l'amener avec moi dans ma douche, puis j'ai une piscine. » Puis tu sais, s'il n'y avait pas écrit ça, j'aurais jamais pensé à le faire. Mais là, il a écrit ça, fait que là, j'ai une tentation, j'ai le goût de sauter dans la piscine avec ma TV. Là, tu vas dire, t'es vraiment malade. Prends tes pilules, man. C'est pas une tentation. C'est comme, tout va bien, fais juste respecter ça. Tu sais? C'est ça. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout va bien, respecte ce pour quoi on a été conçu. C'était ça. Et l'homme a décidé de rejeter Dieu. Et littéralement, à ce moment-là, le shalom de Dieu, la paix de Dieu sur l'humanité a été vandalisée, a été pulvérisée à ce moment-là. Avec toutes les connaissances qu'on connaît, l'être humain a été spirituellement brisé parce que sa communion avec Dieu a été littéralement dévastée. Parce qu'il s'est rebellé contre Dieu, il est devenu pécheur, enclin au mal, enclin à la rébellion, désirant rejeter Dieu. Un désir d'autonomie qui n'est pas un désir de création, c'est un désir de « j'ai pas besoin de toi, je vais faire les choses comme je veux. Ma TV, elle s'en vient avec moi dans la piscine! » Ben oui, mais il y a des conséquences, Jim. Un monde brisé avec des relations, avec la création même qui sont brisées, puis on en souffre avec la maladie qui vient dans le monde. C'est clair pour les chrétiens, tout vient d'une malédiction divine. Les choses ne devaient pas être comme ça. Une société brisée. Vous vous rappelez le mandat culturel, remplissez la terre. On devait bâtir des sociétés. Mais là, le problème, c'est que dès qu'il quitte le jardin, le premier frère tue son frère. Ça valait bien pour construire des sociétés, ça. Comprenez? Donc, ça implique tout ça, là. Des sociétés qui vont mal fonctionner, où on va comme chercher à rétablir ce qui aurait dû être. Laissez-moi vous donner une toute petite illustration. Des fois, je parle avec des gens du communisme. Okay? Là, cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, mais en Chine, ils vont installer comme 50 millions de caméras. Là. Quelqu'un qui me disait ça, pour pouvoir identifier chaque Chinois en reconnaissance faciale en 3 secondes. Ça va être vraiment le fun d'habiter là. Tu sais, c'est « Big brother is knowing you ». Vraiment, là. Fait que des fois, je jase avec des gens, puis là, ils me parlent du communisme, puis là, ils disent « Ouais, mais l'idée était parfaite. » Tu sais, le marxisme, c'est « On met les choses en commun pour le bien commun. » Tu sais. Puis dans un sens, si c'était possible de le réaliser, ça serait vraiment intéressant. Puis là, des fois, les gens vont un petit peu plus loin, puis ils disent « C'est intéressant, j'écoutais un intellectuel cette semaine, puis c'était ça tout son point, c'est que des fois les gens disent « Oui, mais c'est juste qu'on n'a pas réussi à le mettre en place comme il faut. » Puis c'est pour ça qu'à chaque fois, ça donne une espèce de société totalitaire qui contrôle tout le monde, puis où tout le monde perd finalement toutes ses libertés. Mais dans le fond, la personne qui dit ça, ce qu'elle est en train de te dire, c'est « Si c'était moi qui dirigeais le régime, là, tout irait bien. » C'est ça que la personne est en train de dire. Le système fonctionne, c'est juste que le gars qui le dirige, il est corrompu. Si c'était moi qui le dirigeais, ça irait bien. Yeah, sure. C'est sûr. Mais vous comprenez donc, c'est brisé. Le shalom est brisé, puis l'être humain sait ça intuitivement et cherche des moyens, des philosophies pour reconstruire, essayer de rebâtir, remettre en place ce qu'on a perdu. Et c'est ça, ces philosophies-là, c'est des tentatives de mettre en place un système qui nous permettrait de vivre ce qu'on est appelé à vivre, problème, c'est qu'on est brisé à l'intérieur. Fait que on va se servir de ces choses-là pour faire du mal aux gens au lieu de chercher le bien réellement. C'est une société brisée. Ce sont des relations personnelles brisées. Puis on le voit dans la relation entre Adam et Ève immédiatement. La relation est brisée, puis on n'est plus capable simplement d'être dans une relation d'amour. On va se servir de l'autre, on va idolâtrer l'autre, on va l'élever, on va manipuler l'autre, on va s'en servir à nos fins. C'est difficile, les relations. Même comme chrétien, c'est difficile, les relations. Et puis intérieurement, personnellement, nous sommes des êtres brisés. On est des êtres brisés, aux prises avec nos passions. Quelqu'un que j'écoutais dernièrement, il dit on a tous un monstre à l'intérieur, puis si tu le vois pas, ce monstre-là, c'est vraiment dangereux, parce que des fois il sort, tu sais. Puis là, tu es comme, wow, tu l'avais pas vu venir, mais c'est là, tu sais. La Bible parle de notre vieille nature ou parle de notre nature pécheresse, tu sais, c'est notre réalité. Alors, quand ce monde parfait que Dieu a créé, où il y a son shalom, est déréglé, parce que l'être humain se rebelle contre Dieu. Le shalom est pulvérisé. Et tout devient déréglé. Tout devient déréglé. Maintenant, peut-être que vous comprenez pourquoi il faut que ces choses-là soient claires dans ton esprit pour que tu comprennes la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est l'intervention de Dieu, c'est le projet de Dieu pour rétablir son shalom avec les hommes. C'est littéralement ça. La miséricorde de Dieu, lorsqu'il envoie Christ sur la terre, c'est qu'il vient rétablir le shalom. Littéralement. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu avait annoncé qu'un jour, ce shalom-là reviendrait. On lit dans Ésaïe 11, je vais juste vous lire quelques versets à partir du verset 1. Passage prophétique, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Écoutez ceci. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il est en train d'annoncer Christ, Jésus-Christ. On lit toujours dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de shalom, prince de la paix. » Et lorsque Christ est venu sur la terre, quand tu lis les évangiles, si tu ne connais pas Jésus-Christ, il faut que tu ailles lire les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, tu lis les évangiles, tu regardes comment Jésus interagit avec les gens, puis tu vois Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Tu vois quelqu'un de qui ce shalom-là, cette paix-là, cette plénitude, cette bonté-là est omniprésente dans ses interactions avec les pauvres, dans ses interactions avec les hypocrites, dans ses interactions avec les gens qui souffrent, dans son accueil envers les personnes, dans sa manière de nous faire connaître Dieu. C'est constant, c'est présent, c'est là. Tu sens que Dieu est parmi les hommes quand tu regardes Jésus vivre. C'est le shalom de Dieu qui vient parmi les hommes. Dieu revient vers les hommes pour rétablir la paix. Et c'est tellement merveilleux juste de lire, de voir les interactions de Jésus, ses réactions, ses attitudes, l'accueil qu'il a, l'amour qu'il a, son impatience avec le péché, avec l'hypocrisie, avec la religiosité. Tu es là et tu dis, me semble, moi, tout ce que j'aurais voulu faire, c'est dire, regarde, moi, je vais laver tes sandales tous les soirs. Je veux juste être à côté de toi. Je veux juste comme, tu sais, juste passer du temps avec toi. Je n'ai pas besoin de faire rien. Je vais faire ton lavage. Je veux juste être avec toi tout le temps, tu sais. Puis c'est comme si tu rentres dans une espèce d'aura de, oh, jardin d'Éden. Je suis bien. Parce que je suis avec quelqu'un qui transpire le shalom de Dieu. Le shalom de Dieu. Maintenant, évidemment, pour apporter cette paix-là aux hommes, Christ devait venir mourir sur la croix pour nos péchés. À travers toute sa vie, on voyait cette miséricorde-là en lui. C'est pour ça qu'on a lu le passage dans Marc tout à l'heure. Sa douceur, sa, Cette dame-là le touche. Il sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, parce qu'après tout, c'est Dieu, le Fils. Cette femme-là est guérie. Puis là, il dit, « Oh, il y a quelqu'un qui m'a touché, c'est qui? » Là, les disciples disent, « Come on, Jésus, passons un autre appel, s'il vous plaît. Là, il y a une foule autour de toi. » Non, non, attends un peu. Il aurait pu juste la laisser partir. Non, il fallait qu'il vienne lui parler puis qu'il lui dise, « Va en paix. Va avec le shalom de Dieu, t'es guéri. Ta foi t'a sauvé. T'es guéri. » Mais pour nous donner cette grâce-là, il fallait que Jésus-Christ vienne mourir sur la croix. En mourant sur la croix, il venait prendre sur lui notre responsabilité, nos péchés. Et il venait rendre possible notre réconciliation avec Dieu. On va prendre le repas du Seigneur dans quelques minutes. Puis c'est ça qu'on va célébrer ensemble. On lit dans Romains 5:1, « Étant donc justifiés par la foi, c'est la justice de Christ qui nous est donnée. » Parce que je crois en lui. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Christ vient et meurt sur la croix pour nos péchés. Il paye le prix à notre place pour qu'on puisse entrer dans un shalom avec Dieu, qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et si je place ma foi dans son sacrifice pour mes péchés, je suis réconcilié avec Dieu, je suis en paix avec Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus dit... Je vous donne la paix dans Jean 14, 27. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. À partir du moment où tu places ta foi en Jésus-Christ, tu es réconcilié avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en toi. Puis tu vas dans la vie en sachant toujours, je suis un fils, je suis une fille de Dieu. Un jour, bientôt, comme nous le rappelait Basile, bientôt un jour Jésus revient. Puis on va rentrer vraiment dans cette paix-là extraordinaire. Et donc, je vais juste vous lire un tout petit passage à la fin de l'Apocalypse, d'accord, pour nous aider à voir ce monde que Dieu veut rétablir, où on va vraiment entrer à nouveau dans ce shalom-là pour l'éternité. Dans Apocalypse 21, versets 1 à 5, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. La présence de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. On avance dans la vie chrétienne avec la certitude, l'assurance dans nos cœurs qu'un jour, bientôt, Christ revient pour rétablir son shalom parfaitement. Chaque être humain qui a cru en Jésus-Christ va être aimé de Dieu, va être en communion avec Dieu. Dieu va être présent comme dans le Jardin d'Éden, constamment présent. Il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de douleurs. On va pouvoir entrer dans cette vie nouvelle, une nouvelle création où on est en communion avec Dieu, où chaque personne est respectée, aimée et aimante, où on prend soin les uns des autres, où on est en relation constante avec Dieu. Et le défi pour nous, c'est qu'on vit entre le « déjà, mais pas encore ». Christ est déjà venu. Christ est déjà venu, il a vaincu le péché à la croix. Il est mort pour nos péchés sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Et donc, si je place ma foi en lui, j'entre en communion avec lui. J'entre en communion avec Dieu. Son esprit vient faire sa demeure en moi. Je sais déjà que je suis un citoyen des cieux. Je sais déjà que je ne suis plus simplement un homme de la terre, mais je suis déjà un co-héritier avec Christ. Puis je porte ça en moi. Puis là, Dieu nous rassemble dans une église, puis l'église est cet endroit où on vit dans le « déjà, mais pas encore ». On vit dans un monde qui continue à être brisé. Puis nous-mêmes, à quelque part, on continue à être des êtres brisés. On a en nous ce désir-là de porter ce shalom. C'est vrai autour de nous, dans nos relations, dans l'Église. L'Église devrait être l'endroit le plus près possible sur la terre. Toutes les églises devraient être l'endroit le plus près possible sur la terre où tu vois le shalom de Dieu présent. Et si ça fait quelques années que vous êtes chrétien, vous savez que c'est pas parfait cette histoire-là. Vous savez que ça ne marche pas à la perfection, là. Ça prend beaucoup de grâce pour huiler ça, cette machine-là. Beaucoup de miséricorde, beaucoup de pardon, mes amis. Énormément. Mais voyez-vous, on est entre les deux. On est entre ce monde brisé et cette paix avec Dieu entièrement restaurée. Et ce qu'on veut faire à travers cette série-là dans les prochaines semaines, c'est apprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous de vivre entre les deux. En sachant que le plan de Dieu, c'est un endroit parfait où l'être humain est en communion avec Dieu. L'être humain s'épanouit. Les hommes ont été créés avec une dignité intrinsèque, ils ont été faits à l'image de Dieu, mais ce monde-là a été brisé. Puis on attend la restauration de toutes choses. Qu'est-ce que l'Église est appelée à être pour nous, entre nous, et pour le monde autour de nous, dans cette période-là entre les deux, en ressemblant Jésus-Christ? Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Ce matin, on va prendre ensemble le repas du Seigneur, puis c'était comme la meilleure manière de commencer cette série-là. Parler de la miséricorde en commençant par le repas du Seigneur, honnêtement, c'est dur à battre. À travers la série, on va se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire apporter la miséricorde de Dieu aux hommes dans un monde brisé? Comment est-ce qu'on peut ressembler à Christ dans ce monde brisé? Qu'est-ce que ça implique pour l'Église où le shalom, la miséricorde de Dieu devrait être la plus évidente? Sur la terre, ça devrait être l'endroit où on le voit de la manière la plus évidente. Puis Dieu nous appelle à pratiquer la miséricorde, c'est ça qu'il dit dans Romains 12. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi cette semaine? Comment est-ce que tu peux incarner de manière concrète cette semaine la miséricorde de Dieu? Laisse l'Esprit Saint te convaincre, te parler ce matin, puis voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement là, cette semaine. Incarner la miséricorde de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Apporter ce shalom-là autour de toi cette semaine. Dieu a créé un monde merveilleux où régnait la paix, sa plénitude, sa présence, puis cette paix-là a été pulvérisée par le péché. Mais Christ est venu. Christ est venu et déjà, il a apporté son shalom. Il nous l'a apporté à nous. Si ce matin, tu crois en Jésus-Christ, tu es réconcilié avec Dieu. Romains 5, 1, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. On va chanter deux chants ensemble, puis on va méditer sur ce repos, cette grâce d'être dans la présence de Dieu. Puis après ça, les placeurs vont distribuer les éléments. Puis on veut ensemble repasser dans notre cœur cette miséricorde extraordinaire que Dieu a manifestée en envoyant son Fils. Puis laisser cette vérité-là prendre place en nous pour dire, Seigneur, je veux être reconnaissant pour ton sacrifice. Je veux goûter cette paix avec toi dans laquelle tu m'as fait entrer, Seigneur. Et je veux être transformé à ton image, Seigneur, pour incarner cette miséricorde auprès des hommes. On va chanter ensemble.